Le journal vous est présenté par François Chagnot.
Bonjour à tous, il est 9h. 30 ans après le génocide au Rwanda, une association continue de documenter le massacre pour maintenir l'union nationale. Reportage en début de ce journal. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas entame son 7e mois, notre correspondant sur place rappelle que derrière les chiffres des bilans humains, il y a des histoires de vies brisées. Portrait à suivre. Le candidat pro-russe Peter Pellegrini a remporté les élections présidentielles en Slovaquie cette nuit. Et puis le Premier ministre Gabriel Attal précise son plan pour favoriser l'accès aux soins des Français. 30 ans après le génocide de plus de 800 000 Tutsis au Rwanda, le devoir de mémoire permet au pays de continuer à panser ses plaies. C'est le rôle de l'association Ibuka, Souvenir en français. Cette structure s'efforce de documenter le massacre perpétré entre avril et juillet 1994. Notre envoyé spécial Paul Lorgeris s'est rendu dans leurs locaux.
Ils leur ont tiré dessus, utilisant des pistolets et grenades de 17h à 20h.
Gilbert Gassigua est membre de l'association Ibuka. Devant de larges tombes, il égrène le nom des centaines de personnes qui ont été massacrées à cet endroit même le 11 avril 1994.
Sometimes you are remembering the names like Bébé,
Happy, Papi, Kobga. Kobga qui veut dire jeune fille. La preuve que nous ne connaissons pas leur vrai nom pour certains.
Plus de 100 000 personnes sont enterrées ici et chaque année, de nouveaux corps, 40 encore en 2023, y sont apportés afin que ces inconnus reçoivent une sépulture digne de ce nom. C'est pourquoi, pour ne pas oublier, l'association Ibuka, créée en 1995 ainsi que ses partenaires, s'efforce encore aujourd'hui de rassembler tous les éléments de preuve qui pourraient exister dans chaque recoin du pays, comme l'explique Angèle Nirere, archiviste de la structure.
Par exemple, s'il y a une personne qui a été attrapée, ceux qui font le procès, ils peuvent aussi venir s'adresser à Ibuka pour voir s'il y a une documentation qui peut aider à juger cette personne.
Selon un récent rapport de Human Rights Watch, il est en effet, je cite, « urgent d'accélérer la quête de justice pour s'assurer que les derniers architectes du génocide encore en vie rendent des comptes pour leurs actes avant qu'il ne soit trop tard ».
La France aurait pu arrêter ce génocide mais n'en a pas eu la volonté, a reconnu Emmanuel Macron cette semaine. Le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné est à Kigali aujourd'hui pour assister aux commémorations. Une présence symbolique pour poursuivre le rapprochement avec le Rwanda après des années de fortes tensions. On en reparle avec notre invité dans le journal de 12h30, l'écrivain et journaliste français Jean Hatzfeld. Plus de 33 000 morts à Gaza, 1170 en Israël. 6 mois après le massacre du 7 octobre, ces chiffres masquent souvent les vies brisées. Et aujourd'hui, ce sont ces histoires d'exil que vous nous racontez, Thibault Lefèvre, à travers le portrait de deux femmes, une palestinienne, vous l'avez entendu dans le journal de 8h, et maintenant celle d'une israélienne. Après l'attaque de son kibboutz de Nirim, Almog a passé 12 heures enfermée dans son abri avant d'être sauvée par l'armée. Aujourd'hui, elle erre d'hôtel en maison et ne sait pas si elle reviendra chez elle.
C'est une conversation décousue, car régulièrement Almog se lève, elle ouvre la fenêtre de son nouvel appartement de Beth Shemesh, c'est à l'ouest de Jérusalem, et elle chasse les pigeons de la terrasse.
Oui, je surveille les pigeons, je les déteste.
Elle ne supporte pas la présence de ces volatiles qui n'existaient pas à Nirim.
J'ai juste envie qu'ils meurent.
Almog ne s'est pas remise du massacre du 7 octobre. 5 membres de son kibboutz ont été tués. Et 5 autres ont été enlevés.
Les terroristes sont venus dans ma maison. J'ai retenu la porte de l'abri pendant 12 heures jusqu'à l'arrivée des secours. Je ne veux pas retourner au kibboutz.
Il y a 3 semaines, son fils de 9 ans, Sahar, a sauté de 2 étages alors qu'il était dans sa nouvelle école.
Le psychiatre a dit qu'il n'était pas suicidaire. Il souffre, il ne peut pas contrôler ses émotions. Il a été submergé par la colère et il s'est jeté par la fenêtre.
Sahar n'a pas été blessé, mais il a exprimé peu de temps après son envie de revenir à Nirim, de retrouver ses copains et de regoûter à sa vie d'avant.
C'est le grand vide. Je ne sais pas quoi faire de ma vie.
Mais pour le moment, pour sa maman, c'est tout simplement impossible.
Les pourparlers en vue d'une trêve reprennent aujourd'hui au Caire entre des négociateurs américains, qataris, israéliens et du Hamas. Le mouvement islamiste a prévenu qu'il ne renoncerait pas à ses exigences, notamment un cessez-le-feu complet et le retrait des troupes israéliennes. L'armée israélienne qui affirme avoir récupéré hier le corps d'un otage capturé le 7 octobre. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier en Israël. Ils accusent le gouvernement d'avoir trop tardé à signer un accord de libération de ces otages. Les électeurs slovaques ont choisi un président pro-russe. L'ancien Premier ministre Peter Pellegrini, proche du gouvernement populiste, a été élu hier avec plus de 53% des voix. Il s'impose face à son rival libéral et pro-européen Ivan Korchok. Alors ce clivage pro-russe, pro-ukrainien était au cœur de la campagne. Peter Pellegrini refuse toute aide militaire à Kiev et accuse son rival de vouloir entraîner la Slovaquie dans la guerre, Alexis Rosenzweig.
Je ferai tout pour que la Slovaquie, que cela plaise ou non, reste toujours des côtés de la paix et pas des côtés de la guerre.
Avec plus de 53% des voix, finalement, Peter Pellegrini pouvait savourer sa victoire samedi soir en n'oubliant pas de marteler qu'il était pour la paix dans l'Ukraine voisine, sans préciser comment exactement parvenir à cette paix. Le report des voix de l'extrême droite pro-russe et le vote des minorités ethniques, notamment de la minorité hongroise, lui ont permis de battre le candidat de l'opposition libérale, Ivan Korchok, qui a reconnu sa défaite, mais qui a aussi dénoncé les pratiques du camp victorieux.
Il est possible ici de remporter une campagne en faisant de l'autre candidat, en faisant de moi, le candidat de la guerre. Je veux vous dire très clairement que je ne l'oublierai pas.
La victoire de Peter Pellegrini est une bonne nouvelle pour son allié, le chef du gouvernement Robert Fico, qui aura désormais le champ libre pour mener les réformes controversées déjà amorcées, entre autres dans les domaines de la justice et des médias. La coalition qu'il dirige, formée avec l'extrême droite, peut envisager avec sérénité le scrutin européen dans 2 mois.
La correspondance à Bratislava d'Alexis Rosenzweig. Le chef de l'ONU se dit alarmé après le raid mené par des policiers dans l'ambassade mexicaine en Équateur hier. Les forces de l'ordre ont kidnappé l'ancien vice-président équatorien Jorge Glass, accusé de corruption. Il y avait trouvé refuge. En réaction, le ministre et le Mexique et le Nicaragua ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec l'Équateur, les États-Unis, le Brésil ou encore l'Argentine condamnent également cette intrusion. La Chine va mener aujourd'hui des patrouilles de combat en mer de Chine méridionale, annonce faite cette nuit, alors que les Philippines, les États-Unis, le Japon et l'Australie ont annoncé hier mener des exercices militaires conjoints dans ce même secteur. Cette zone est l'une des plus convoitées de la planète. Pékin, comme ses voisins japonais et philippins, revendiquent la souveraineté sur ce secteur stratégique où transite un tiers du commerce maritime mondial. Gabriel Attal détaille ce matin une batterie de mesures sur la santé dans une interview accordée à la presse quotidienne régionale. Des annonces destinées à faciliter l'accès aux soins des Français. Alors le Premier ministre confirme et précise ce qu'il avait déjà avancé dans son discours de politique générale fin janvier, Jeanne Serrin.
Il faut d'abord augmenter le nombre de médecins. Pour cela, Gabriel Attal confirme la suppression du numerus clausus et se donne des objectifs chiffrés, 12 000 places en deuxième année de médecine en 2025, 16 000 en 2027. Autre levier avancé, le recours aux médecins étrangers, ce qui devrait venir gonfler les rangs. Et notamment, la nuit, le Premier ministre alerte sur le manque de médecins de garde et pour les inciter à assurer ces permanences, une prime pourrait leur être accordée. Mais avoir du personnel n'est pas suffisant. Faut-il encore qu'il soit disponible ? Pour désengorger les cabinets, plusieurs solutions, par exemple en finir avec l'obligation de consulter un médecin généraliste avant de consulter un spécialiste. Une expérimentation du dispositif doit être lancée dans un département par région. Gabriel Attal redit aussi son engagement à instaurer une taxe lapin pour tous les rendez-vous qui ne seraient pas honorés. Une proposition de loi de la majorité sur cette taxe de 5 euros est en cours de rédaction. Enfin, dernier volet, la santé mentale des jeunes, qui s'appuie notamment sur le dispositif Mon Soutien Psy. Le Premier ministre souhaite le faire évoluer en revalorisant les tarifs des séances de 30 à 50 euros pour inciter plus de psychologues à s'inscrire sur la plateforme, mais aussi en faisant passer le nombre de séances remboursées de 8 à 12 pour augmenter le nombre de bénéficiaires.
Jeanne Serrin. Le roi du cirque équestre et écuyer de renom, Alexis Grus, est mort hier à l'âge de 79 ans des suites d'un accident cardiaque. Il avait révolutionné le milieu circassien dans les années 70, notamment en remplaçant les fauves et les cercles de feu par les chevaux et les acrobaties. Il était l'héritier et le rénovateur d'un art français de la grâce, salue l'Élysée dans un communiqué. La météo, les températures en baisse aujourd'hui, entre 12 et 19 degrés ce matin. Le temps est couvert sur une large bande entre le nord-est et la côte atlantique. Ailleurs, le ciel reste voilé.